Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Jean, où nous poursuivons dans le chapitre 2. Une thématique qui n'est pas évidente. Et qui n'est pas évidente d'ailleurs pour moi de prêcher, puisque elle m'interpelle, elle m'interroge. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Thématique qui m'interroge dans mon attachement aux choses du monde. Et je pose la question à mon épouse, est-ce que tu trouves que je suis attaché au monde? Est-ce qu'on est attaché au monde? Quand même, hein? Et sans doute, tous ce matin à notre niveau, et on va partager tout à l'heure, on va découvrir qu'il y a quand même des attaches au monde que nous avons. Mais le Seigneur veut nous les montrer utilement pour nous en détacher de manière utile pour lui et pour nous rapprocher de lui. Amen. Alors on veut réfléchir à cela ce matin. Nous lisons ensemble 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voilà. Voilà un avertissement que l'apôtre Jean adresse à ses bien-aimés. Nous l'avons vu, il y a des gens qui les troublent, il y a des gens qui cherchent à les égarer quant à la foi. Des gens qui d'ailleurs sont sortis du milieu ecclésiastique et de la communauté, mais qui en réalité, dans leur cheminement, montrent qu'ils ne connaissent pas le Père, qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Alors bien sûr, ils prétendent avoir une onction spéciale que les autres n'ont pas. Ils prétendent avoir une connaissance supérieure. Et ils troublent. Et dans ce que nous avons lu, l'égarement qui est suggéré ici se fait par l'attachement au monde. L'amour du monde plutôt que l'amour de Dieu. Alors, l'apôtre Jacques a déjà écrit sur ce sujet. On peut le prendre en parallèle, Jacques 4, verset 4, épître de Jacques 4, 4. Peut-être d'ailleurs que c'est un moyen mnémotechnique pour nous, le 4-4, de nous rappeler que si l'on veut rouler pour Dieu et surmonter les obstacles et les collines et les montagnes et les torrents, eh bien, il y a un positionnement du cœur qui est fondamental à avoir. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Passage solennel, hein? Incisif, clair, qui montre que vraiment il y a une opposition, un gouffre. On ne peut pas concilier l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, sans doute que nous sommes les grands champions d'essayer au quotidien de concilier les deux et de réunir l'irréunissable. Et le Seigneur veut pour nous nous rappeler vraiment notre identité. Il dit, vous êtes des petits-enfants, vous êtes des jeunes gens, vous êtes des pères, vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Plus tard, il dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et de cette identité nouvelle, il y a un positionnement du cœur et un combat et une lutte qui s'engage entre l'amour du monde et l'amour pour Dieu. Jésus, dans sa prière, l'a dit d'emblée. On va dans l'évangile de Jean, et c'est à nouveau l'apôtre Jean qui nous le rapporte, Jean 17. Jean 17. Au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Alors, voyez-vous, Le Seigneur veut vraiment nous montrer, nous convaincre que depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, que nous lui avons confié la direction de notre existence, eh bien, le monde n'est plus notre milieu naturel. C'est un petit peu comme si le chrétien était en plongée sous-marine. En plongée sous-marine, lorsque finalement nous allons au fond de l'eau, on ne va pas y rester bien longtemps sans se noyer, parce que ce n'est pas notre milieu naturel. Nous ne sommes pas des poissons et nous ne respirons pas comme peuvent respirer les poissons. Être comme un poisson dans l'eau. Malheureusement, les chrétiens sont souvent un peu trop des poissons dans l'eau, dans le monde. Alors bien sûr, le Seigneur a dit « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Ça veut dire que le Seigneur nous laisse dans le monde, mais que le monde n'est pas notre milieu naturel. Et le Seigneur va nous équiper, il nous a équipés pour que nous puissions vivre dans le monde sans être du monde, sans être amis du monde, sans aimer le monde et sans nous conformer au monde. Et c'est l'équipement de plongée sous-marine. Il nous a donné des bouteilles d'oxygène, il nous a donné ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre dans le monde sans finalement que ce soit notre milieu naturel. L'équipement qu'il nous a donné, première chose que va reprendre Jean dans son épître, c'est la parole. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et plusieurs fois dans notre épître, les jeunes gens, ils gardent la parole. Et puis le deuxième équipement qui est complémentaire, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous avez reçu l'onction. Ne vous laissez pas troubler par ceux qui vous disent que eux, ils ont une onction toute spéciale que vous n'avez pas, et que eux, ils comprennent des choses et qu'ils ont une connaissance à laquelle il ne vous a pas été fait la grâce d'accéder. Non. Il dit, moi je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, le Saint-Esprit est venu vous joindre, reposer sur vous, habiter en vous, vous a baptisé et il vous enseigne toutes choses. Il est celui qui vous guide dans la vérité, il est celui qui vous fait comprendre la parole de Dieu. Corinthiens, Paul le dira, les choses spirituelles sont une folie pour ceux qui périssent, c'est une folie pour ceux qui sont dans la chair, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend les choses de Dieu, qu'on comprend la parole de Dieu, et ça, frères et sœurs, c'est notre équipement. Le Seigneur nous a donné sa parole et il nous a oint du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre dans le monde sans être du monde. Pour qu'on puisse respirer dans ce monde, non pas l'air du monde, l'air pollué, mais respirer. J'ai envie de dire l'air du Saint-Esprit, hein, l'air, c'est le souffle, le Saint-Esprit c'est le souffle du Saint-Esprit. Regardons quelques passages complémentaires. 1 Pierre 2, 11 nous dit un petit peu de cette identité d'étranger. Nous ne sommes pas dans notre élément naturelle dans ce monde. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà, des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dans le monde, mais pas du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie un petit peu comme ça, et dans la parole, il est employé avec plusieurs significations. D'abord, le monde, bien sûr, désigne la planète. Bon, le monde, la planète Terre. Dieu a créé le monde. Et ça, c'est formidable. Et au travers de la création et du monde géologique, enfin, ce que Dieu a créé, eh bien, il nous parle. C'est la révélation, c'est une révélation de Dieu. Et ce n'est pas de ce monde-là qu'il s'agit lorsqu'il nous dit « n'aimez pas le monde ». Au contraire, bien sûr, nous sommes appelés, concernant la planète, concernant la création, à la regarder parce que finalement, c'est un langage, et c'est un langage où, l'Épître aux Romains nous le dit, la puissance de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil nu quand on considère dans ses ouvrages. Voilà. Alors on peut s'extasier hein, devant les beautés de la nature, devant le règne animal, devant le règne végétal, et aimer la création de Dieu. Ça, parfois, c'est dans ce sens-là que le mot est employé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Parfois, le mot « monde » désigne l'espèce humaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde désigne aussi tous les hommes et toutes les femmes, tous les enfants qui peuplent la planète. D'ailleurs, des fois, on dit « Ouh, il y a beaucoup de monde hein, !» Beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et le Seigneur, vis-à-vis des gens, nous demande d'aimer. D'aimer même notre ennemi. Donc, il ne s'agit pas de dire, ben moi, je n'aime que les chrétiens, et puis les non-chrétiens, je vais les détester, les haïr, parce que Dieu a dit que si j'aime le monde... C'est... Bon. Donc là, il ne s'agit pas d'être des ennemis de l'espèce humaine, mais tout au contraire, d'être dans le même amour que Dieu qui a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Donc, ce n'est pas le monde au sens des gens. Et il y a une dernière signification du mot « monde » et c'est celui qui est ici. C'est le système et ses ressorts, le système de notre civilisation, de nos pays, de nos gouvernements et de tout ce qui fait notre monde tel qu'il est. Il y a le monde occidental avec ses valeurs, avec ses habitudes, avec sa culture. Il y a d'autres mondes et d'autres systèmes, mais c'est dans ce sens-là que Dieu nous dit « n'aimez pas le monde ». Alors, c'est un sens qu'on emploie fréquemment. Par exemple, on dit où il a fait ses premiers pas dans le monde de la finance. Voilà. Le monde de la finance, c'est-à-dire tout cette petite organisation, cet univers en soi organisé autour de l'argent, avec ses règles propres, avec ses objectifs, avec ses choses à bien comprendre, le monde de la finance. Ça peut être le monde du sport, ça peut être le monde de la culture, C'est-à-dire chaque petit univers organisé qui a ses valeurs et un certain sens. Bon, moi je suis dans le monde de l'éducation nationale. Il faut en comprendre les codes, faut... Voilà, c'est aussi un univers en soi. Eh bien, l'apôtre Jean nous apprend à cet égard, tournons quelques pages, 1 Jean chapitre 5. Verset 19. Il dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un monde sous la puissance active, effective de Satan. On le retrouve en Éphésiens. Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 1 et suivant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, voilà à nouveau Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un monde et une humanité sous la puissance, sous la direction, sous l'esprit de Satan, qui impulse et qui anime. Et au verset 3, il dit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà le monde duquel il parle, le mode de vie, d'existence, de pensée et d'organisation de nos civilisation, de nos communautés humaines organisées et qui sont organisées non pas pour nous rapprocher de Dieu, non pas pour glorifier et honorer Dieu, porter son image, mais tout au contraire, organisées pour nous en éloigner, pour nous couper de lui, pour nous amener même à nous rébeller contre lui, à vivre non pas selon sa volonté, mais contre sa volonté. Alors, il y a une séduction de ce que ce système organisé par Satan peut nous offrir, pour nous faire chuter, pour nous attacher à lui. On le trouve, par exemple, en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Au verset 2, il dit: « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ça nous renvoie, hein, celui qui aime le monde ne peut pas aimer le Père. Au verset 3, il dit « Toutefois, de même que le serpent, tient à nouveau Satan, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » voilà un séducteur, voilà un menteur qui veut nous détacher du Seigneur pour nous attacher au monde au travers de nos appétits. Et c'est le verset 16. Nous revenons à 1 Jean chapitre 2, verset 16. Satan est le champion pour prendre nos besoins et nos désirs, j'ai envie de dire, d'ordre créationnel. Satan prend ce que Dieu a créé pour le travestir, pour le détourner et pour l'orienter sur du péché. Alors, il dit, par exemple, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Ça recouvre beaucoup de choses. Mais prenons simplement des exemples très terre à terre. Dieu nous a créés avec le besoin de manger, oui, et avec des papilles gustatives pour apprécier ce que nous mangeons. Mais par contre, nous pouvons vivre pour manger, hein, comme disait Molière, la gourmandise, être accaparé de ses plaisirs, chercher tous les petits restos sympathiques qu'on peut faire et puis on n'en a pas encore assez fait le tour et ah, ça c'est important. Peut-être c'est le besoin de sommeil. Besoin de sommeil qui peut se transformer en paresse. Hein? Et toutes les choses qui appartiennent à notre nature humaine, Satan veut s'en saisir pour nous piéger avec. Les convoitises de la chair. Alors tout à l'heure, on prendra le temps, chacun d'échanger, de partager ce qui, pour nous, on dirait oui, effectivement, moi, telle chose ou telle chose, je sais que ça peut être un piège pour moi, je sais que ça peut être un attachement au monde, c'est une convoitise de la chair ou des yeux ou de ce qu'on veut, mais je sais que là, je dois être vigilant. On prendra le temps tout à l'heure d'échanger. Il dit, la convoitise des yeux. Ah, il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, l'amour du monde avec la convoitise des yeux, on pense simplement à tous nos écrans et à tout le temps qu'on est attiré par ce qu'on voit. Beaucoup de choses qui passent par les yeux, hein, à ce niveau-là. On y passe énormément de temps, énormément d'énergie. Et par nos yeux, on apprécie voir est-ce que ces convoitises charnelles ne font pas la guerre à l'âme parce qu'elles nous détournent de Christ. Tout ce qui va nous détacher de Christ pour nous attacher à autre chose, en fait, c'est ça l'amour du monde. Hein? Convoitise des yeux. Tout ce qui est beau, esthétique, tout ce qui brille. Comment est-ce qu'on est habillé, comment est-ce qu'on est maquillé, comment est-ce qu'on va épater d'ailleurs. Telle belle voiture et puis telle belle maison. Et la convoitise des yeux. Hein, on aime ce qui est beau. Pourquoi je crois que Dieu nous a créés avec un goût pour ce qui est beau. Et c'est normal, ça fait partie de notre image de Dieu. Dieu a créé le monde beau, harmonieux, et le fait d'aimer ce qui est beau et harmonieux fait partie de ce que Dieu nous a donné. Mais là encore, Satan le prend, le tord, et puis nous tient par le bout du nez avec l'amour, ce qui est beau. C'est plus l'amour de Dieu parce qu'il a créé des belles choses. C'est juste l'amour de ce qui est beau. Ça devient une idole. Hein. Ce n'est plus l'amour de Dieu parce qu'il a créé des aliments savoureux. C'est l'amour des choses savoureuses. Vous voyez, ça ne passe plus par la relation à Dieu. C'est directement pour la chose elle-même sans passer par Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à être reconnaissants pour toute chose, c'est-à-dire à reconnaître d'où elles viennent, à reconnaître la main qui nous les donne. Dieu, dans sa bonté, nous fait profiter, nous donne abondance de choses pour que nous en jouissions, nous dit la parole. Hein? Mais nous pouvons les apprécier, les savourer, sans verser dans l'amour du monde, si nous sommes dans la reconnaissance, si nous savons reconnaître et conserver la trace de Dieu là-dedans. Alors, il y a aussi l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, la valeur que j'ai, mes réussites, comment les autres me perçoivent. Et nous sommes dans un monde où, effectivement, la carrière compte, les réalisations comptent, les succès, ce qu'on peut produire et réussir et briller, ça compte énormément, cet orgueil de la vie, y compris dans le matérialisme. Hier soir, on discutait avec les jeunes filles de Gospel Family, parce que l'une prépare son mariage et elle disait, mais c'est incroyable, hein, ces gens qui viennent au mariage tout à la fin en retard, mais alors, juste pour montrer comment ils sont bien habillés, alors elle appelait ça comment, les sapologues, hein, c'est ça ? Bien sapé, hein, la chanson sapé comme jamais là, bien, voilà. Et elle disait, mais ils s'endettent, ils s'achètent des costumes à 3000 euros, etc. Ils n'ont même pas les sous pour le faire. Mais c'est pas grave, on s'endette parce qu'il faut montrer, faut en jeter quoi. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Bon, alors. Le chrétien ne doit pas aimer le monde à cause de la nature même du monde, nous l'avons dit. Nous avons besoin de prendre conscience que le monde n'est pas notre ami, oui ou non ? Tout comme l'eau n'est pas l'ami de l'être humain. Quand on fait de la plongée sous-marine, si on croit que l'eau est notre ami, eh bien non, c'est toujours un élément à dompter, à maîtriser... Tout comme vous avez vu plusieurs films hein, où il y a des sous-marins et on dompte ce milieu. Il y en a un très, très chouette hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ce film sur les sous-marins français là. Et le drame, c'est quand l'eau rentre. Le problème, c'est jamais que le chrétien soit dans le monde. Le problème, c'est toujours que le monde rentre dans le chrétien. C'est ça le souci. On est dans le monde, mais quand le monde rentre dans le chrétien, alors là, Satan se régale. Il touche notre amour pour Dieu, et en touchant notre amour pour Dieu, il va toucher aussi notre obéissance à sa volonté. Il y a deux choses. Comment est-ce qu'on peut s'évaluer et dire est-ce que j'aime le monde ? La première chose, c'est de mesurer, de regarder notre amour pour Dieu. Est-ce au niveau des émotions, au niveau des sentiments, est-ce que mon cœur aime le Seigneur ? Est-ce que mon cœur il brûle pour Jésus ? Est-ce que mon affection, elle est pour le Seigneur. Ou est-ce que finalement mon cœur est un peu froid ? On se souvient d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais ça, c'est déjà un bon élément pour mesurer notre attachement au monde. Parce que quand on aime le monde, on sait qu'on aime le monde, on sait en quoi on l'aime. Moi, je sais que j'aime les bons whisky, je sais que j'aime... je vais vous dire, hein, j'aime bien ma piscine, par exemple. Hein? J'aime bien mon travail. Pour parler, hein, mais j'aime mon poste. Et bon, mais et tout ça, on a une affection, on a un élan de cœur qui on aime la musique, on aime. Bon, et cet élan du cœur, il en est où pour Jésus ? Ben, quand on se rend compte que notre élan de cœur pour Jésus est refroidi, on a un très bon élément de se dire si mon amour pour Jésus, si l'élan de mon cœur, si ma tendresse pour Jésus, elle est bof bof. C'est sans doute que l'amour du monde a pris la place. Parce que de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. L'amour du monde, il chasse l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu, il chasse l'amour pour le monde. Ça, c'est un premier élément. Au verset 17, nous avons un deuxième élément. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le deuxième élément, c'est est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu ? Est-ce que j'obéis à la volonté du Seigneur ? Lorsque l'amour du monde est entré dans le sous-marin, dans le chrétien, ben ça devient compliqué de faire la volonté de Dieu. L'amour du monde m'éloigne de l'obéissance à la volonté de Dieu pour ma vie. Et dans beaucoup de domaines, le Seigneur a une volonté très précise. Qu'on trouve dans la parole, que le Saint-Esprit nous atteste. Et qu'il est compliqué d'obéir à la volonté de Dieu. Et souvent, quand on voit qu'est-ce qui lutte contre la volonté de Dieu, eh bien c'est l'amour du monde. Ça peut être l'amitié qu'on a pour le monde ou pour des gens, même du point de vue amoureux. Ça peut être le matérialisme qui nous empêche d'aller dans le sens de la volonté de Dieu. Ça peut être l'amour de nos loisirs, de nos plaisirs, de nos... Voilà. Et ça, le monde sait cultiver. Hein. Prenez soin de vous. Ça, c'est un grand leitmotiv de notre société occidentale. Hein. Ce n'est pas forcément pareil ailleurs, mais ici, chez nous, surtout prenez soin de vous. Parce que vous le valez bien. Alors, on a dit mesurer l'attachement que j'ai au monde, c'est déjà où en est la vivacité de ma tendresse pour Jésus. Est-ce que mon cœur il va vers le Seigneur dans ce dialogue, dans cette relation, dans pour le rencontrer comme mon ami, pour lui parler, pour l'écouter, pour le chanter, pour le magnifier. Ou est-ce que c'est devenu très platonique entre nous? Ah ben si c'est platonique entre Jésus et moi, c'est que c'est sans doute pas très platonique entre le monde et moi. On met la main à couper, et pas de problème, hein, on est sûr. Et puis, la volonté de Dieu, suivre la volonté de Dieu. Sa volonté pour ma vie conjugale, sa volonté dans l'éducation des enfants, sa volonté pour ma vie d'église. Sa volonté pour mon argent, sa volonté pour mes choix moraux, sa volonté pour mon temps. Comment user de mon temps? Sa volonté dans le service. Est-ce que le Seigneur a un plan pour que nous le servions, que nous le mettions à son service dans le ministère? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qui retient notre service? Alors, c'est peut-être le moment de partager. Hein. Qu'est-ce qui, pour chacun de nous, dit, ouais, ça, je sens que l'amour du monde, pour moi, voilà, c'est, il faut que je surveille, il faut que je sois vigilant à cet égard-là. Alors, bon, je commence. Et puis vous poursuivez. Je vous ai déjà dit un petit peu, mais par exemple, c'est vrai que pour moi, par exemple, la carrière, mon travail, c'est quelque chose sur lequel je dois être vigilant. Il y a 2 ou 3 ans, d'ailleurs, le Seigneur m'a vraiment travaillé en disant « Attention, tu fais ceci, mais il ne faut pas que ça t'éloigne du ministère. » Et c'est toujours agréable d'être en réussite dans le domaine professionnel. Il y a aussi un aspect financier qui est derrière. Hein. Et bien, par exemple, voilà. Cet aspect-là, apprécier la reconnaissance des autres, être en réussite professionnelle, tout ce que ça peut représenter, eh bien, ça peut m'empêcher de faire la volonté de Dieu en ce qui concerne le ministère, dans le temps que j'y passe, etc. Dans là à quoi je donne la priorité. Par exemple, à vous, qu'est-ce qui peut vous sembler des éléments sur lesquels être très attentif parce que l'amour du monde peut vite trouver une voie d'eau, hein, nous, et rentrer à l'intérieur et nous détacher du Seigneur? Graziella.
L'activisme. Là, quand je fais du soutien scolaire, effectivement, comme on ne pensait pas à mon métier, mais c'est très valorisant. Et on reçoit aussi de la reconnaissance de la part des parents. En plus, je touche un milieu arabisant, j'en ai fait un petit peu tout ça, alors tout de suite, on est mis en exergue. Je suis la seule européenne, enfin française à rentrer dans ces milieux-là. Alors voilà, on me gâte, on me. Donc, et toujours dans le but quand même de parler du Seigneur, forcément. Mais du coup.
Donc, l'activité qui peut se transformer en activisme. L'activité est une très bonne chose. Hein. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Le Seigneur ne nous demande jamais d'être paresseux. Hein. Il nous demande de travailler. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Hein. Attention. Mais, il ne demande pas d'être inactif et rien faire et de vivre notre vie pour nous-mêmes. Non, il y a un travail, produire quelque chose. Mais le travail, Satan peut s'en saisir pour nous attacher au monde. Quelqu'un d'autre? Oui. L'inactivité. Donc le septième jour, le jour du Seigneur, quoi. Hein? Ok. Donc, quant à l'activité, pas paresseux, hein, nous dit la parole, mais. Okay. J'ai vu. Ah oui, Marité. Donc finalement, ça devient l'emprise que faire plaisir aux autres et travailler pour les autres, ça peut avoir sur nous et ça nous tient. Quelqu'un d'autre ? Daniel ? Quelqu'un veut dire quelque chose encore avant que la parenthèse soit refermée? Oui? Bon, il y a tant de choses, hein. Moi, en fait, j'aurais pas assez de 5 vies, je crois. J'aimerais bien faire tous les restos qu'il y a. J'aimerais bien goûter à toutes les spécialités. J'aimerais bien écouter tous les styles de musique. J'aime la musique. Et apprécier, passer du temps. J'aimerais bien me plonger dans les romans et lire les trucs. J'aime ça. Passer du temps dans les musées. Bon, faut pas que j'y mette les pieds, après on n'en sort plus. Mais j'aimerais bien aussi découvrir tous les pays du monde, vous voyez, voyager et tout ça. En fait, le monde, il a des tas de choses à nous offrir. J'aimerais bien être un expert en plein de trucs. Ouais, non, mais si, mais par exemple, la médecine, c'est un monde fascinant. Si j'avais une autre vie, je ferais ça. Mais ça peut être, je sais pas, moi, être biologiste, être. En fait, tout est passionnant, quelque part. Tant de choses passionnantes et on peut se mettre dans des tas de choses. Mais oui, Christ n'est plus le centre. Nous attacher, tout ce qui nous détache de Christ. Alors c'est à nous de savoir vivre peut-être à la manière dont 1 Corinthiens 7 nous enseigne. Et on terminera par là. Ou presque. 1 Corinthiens 7. Verset 29. 1 Corinthiens 7, 29. Le contexte, c'est le mariage. Mais ça dépasse le contexte. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Donc il revient à l'exemple du mariage, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Verset 35, je dis cela dans votre intérêt, car ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et nous devons avoir, je crois, un état d'esprit en disant, mais le temps est court, la figure de ce monde passe, Jean emploie à peu près la même expression. Au chapitre 2, verset 17, « Et le monde passe ». Et sa convoitise aussi. Il nous dit, attention, le monde, il est éphémère, ça passe, ça va passer vite. Nous, il faut qu'on construise, il faut qu'on bâtisse pour ce qui dure éternellement. Et si notre amour, il est pour le monde, l'amour du monde, ben, c'est un amour mal placé parce que le monde, ben, il passe. Par contre, l'amour pour Dieu, c'est un amour bien placé parce qu'il demeure éternellement. Et donc, il dit, voilà, l'état d'esprit, c'est ceux qui possèdent comme ne possédant pas, ceux qui achètent, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Oui, il est là, mais si ce n'est pas là, ce n'est pas grave. C'est le Seigneur. Pour être propre à être attaché au Seigneur sans distraction. Et ça, ça doit être notre pivot. Est-ce que Satan a réussi à faire rentrer à l'intérieur de mon cœur des attaches, des distractions qui me distraient, qui me détournent de mon attachement au Seigneur et qui finalement, eh bien, mon engagement pour le Seigneur, eh bien, il a pris un grand coup dans l'aile parce que parallèlement, j'ai d'autres occupations et d'autres préoccupations, d'autres amours. Et Dieu, c'est pas ce que ça pourrait être. Mais le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans ce monde en vainqueur. Satan cherche à nous atteindre, à nous polluer, à nous paralyser. Et il s'agit pour nous de ne pas respirer ce monde sans filtre. Et on termine par Romains 12. Romains 12, 2. Le chrétien, il doit avoir un filtre par rapport à son immersion dans le monde. Il est immergé dans le monde, mais il a le Saint-Esprit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par sa parole, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous permet de ne pas finalement nous laisser mouler par le monde, et on prend la forme du monde et on se conforme au monde, on finit par lui ressembler parce que finalement on en est amis. Il dit non, tu vis dans ce monde, mais tu peux avoir un filtre salvateur. C'est d'être renouvelé dans ton intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Alors, pour discerner la volonté de Dieu, nous avons tous reçu l'onction. Amen. Alors vivons du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que tu veux que notre cœur soit tout entier à toi. Seigneur, aide-nous à nous interroger sur la force de notre amour pour toi, de notre tendresse pour toi. Est-ce que nos sentiments, les sentiments de nos cœurs sont un petit peu plats? Ou est-ce qu'ils sont vifs pour toi? Aide-nous à nous interroger sur notre rapidité, notre promptitude et même notre joie à t'obéir, à obéir à ta volonté. Ou bien est-ce que ta volonté nous est coûteuse, douloureuse, et que nous la mettons souvent de côté pour faire notre propre volonté et pour simplement vivre, pour nourrir nos appétits, satisfaire nos désirs et satisfaire tous les petits ancrages, toutes les petites attaches que le monde a su mettre dans notre cœur et par lequel il nous tient et il nous tient finalement éloignés de toi, éloignés de ta volonté et éloignés d'un amour vif et sincère. Seigneur, tu vois nos cœurs, nous voulons te demander pardon pour là où nous nous sommes laissés attachés par le monde. Et nous voulons que par ton esprit, que nous avons tous reçu et qui nous enseigne et qui nous montre, que nous puissions nous repentir là où nous avons besoin de repentance, que nous puissions reconnaître là où notre amour pour le monde existe, là où nous sommes adultères, pour que nous puissions revenir à toi d'un cœur sincère, entier, d'un cœur zélé. Merci parce que toi tu nous as aimés et tu es fidèle. Alors tourne nos cœurs vers toi, Seigneur, afin que nous n'ayons pas la honte d'être trouvés éloignés de toi. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, que par la plume de l'apôtre Jean, tu nous écris au sujet de ce qui nous égare. Cet esprit de l'antéchrist, cet esprit du monde, animé par Satan, qui veut que dans nos cœurs, Seigneur, ce ne soit plus toi qui aies la place, mais lui. Alors, que tu sois le premier dans nos affections et dans notre obéissance. Au nom de Jésus.